signe des temps, Marc Wetzmann.
Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Le rideau du déconfinement se lève lentement sur le fameux monde d'après dont on nous rebat les oreilles depuis 2 mois, et à quoi ressemble-t-il ? On l'a déjà dit dans cette émission, l'un des changements culturels majeurs dont les conséquences sont les plus profondes est aussi l'un de ceux dont on mesure le moins les effets, c'est-à-dire le poids renforcé des nouvelles technologies dans la vie des individus. En France, pour l'instant, qu'elles deviennent populaires ou bien non, la nouvelle application Stop Covid disponible depuis cette semaine en est le symbole le plus évident. Pour la première fois dans l'histoire, ceux qui téléchargent cette application sur leur smartphone font le choix d'interagir en direct avec un service gouvernemental au sujet de leur santé, sans savoir à qui ils s'adressent ni ce qui est fait des informations qu'ils transmettent. Le mois dernier, plusieurs tribunes et pétitions ont réclamé sans succès l'abandon de cette expérience ou réclamé des garanties. Ces garanties sont-elles effectives aujourd'hui ? Plus largement, alors qu'aux USA, le conflit enfle entre Trump et les réseaux sociaux qui ont aidé à le faire élire dans une crise politique sans précédent, comment se transforment sous nos yeux les relations entre géants de l'informatique, individus et États dans le monde post-pandémie ? Pour en parler avec nous aujourd'hui, Adrienne Bretons, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été conseillère économie et numérique de l'Élysée entre 2015 et 2017. Vous êtes membre de la Fondation Jean Jaurès et vous êtes co-signataire d'un texte collectif paru dans Libération le 27 avril intitulé « Le projet Stop Covid doit être abandonné ». Vous avez aussi écrit plusieurs tribunes dans le JT, on va en parler dans une seconde. Lucien Castex, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre du conseil d'administration de l'Internet Society France et chercheur à l'université Sorbonne Nouvelle. Vous travaillez sur les interactions entre droit, confiance et technologie et vous êtes membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui participe au groupe d'experts du CSA sur la désinformation. Et Miguel Benassayag, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, psychanalyste, chercheur en épistémologie. Vous êtes auteur de nombreux livres, parmi lesquels Critique du bonheur, Pensée de la liberté, La décision, le hasard et la situation, Organisme et artefact. Et cet hiver, vous avez publié La tyrannie des algorithmes, dont il sera question dans cette émission. Alors, l'application Stop Covid. D'abord, je vais résumer comment son fonctionnement avant de passer la parole aux invités. Le principe, c'est que des utilisateurs choisissent de télécharger l'application qui utilise le Bluetooth lorsque leur téléphone se croise pendant au moins 15 minutes à moins d'un mètre. Chacun enregistre l'autre dans l'historique de son application de manière cryptée, autrement dit de façon anonyme. L'application est construite de manière à ce que personne ne puisse retracer la liste des personnes testées positives, ni le cas échéant, reconstituer la chaîne des transmissions. C'est-à-dire que lorsqu'une personne se déclare positive dans l'application, tous les utilisateurs de Stop Covid qu'elle a côtoyé sont prévenus qu'ils ont croisé une personne infectée, mais sans connaître son identité, et on les encourage à se faire tester, et s'ils sont testés positifs, à s'isoler pendant 15 jours, le temps d'obtenir confirmation qu'ils ne sont pas infectés. Alors, Adrienne Bretons, vous avez publié un texte collectif dans Libé le 27 avril dernier. Est-ce que l'application telle qu'elle existe conjure vos craintes ou pas ?
Alors, pas totalement. Il faudra qu'on puisse l'essayer pour véritablement le vérifier. Il y a déjà une version bêta qui a été transmise et qui a été essayée par un certain nombre de gens du numérique. Je pense pas qu'elle réponde à la totalité de nos inquiétudes, notamment sur l'efficacité, qui est quand même un point primordial. On parle d'une épidémie avec des millions de personnes touchées. À ce stade, je suis pas encore convaincue de l'efficacité de ce dispositif pour une première raison, qui est que pour être efficace, cette application doit être utilisée par un grand nombre de personnes.
Oui, c'est ça, c'est ce que vous dites dans le papier. C'est ce que vous dites dans le texte collectif. Il faut un minimum de 60% de la population pour que 60% de la population au moins utilise cette application pour que l'épidémie puisse être freinée. C'est ce que vous dites.
Oui, alors c'est pas nous qui le disions d'ailleurs, on a repris une étude qui avait été faite par l'université d'Oxford sur le sujet, et ce 60% est très difficile à atteindre. En France, on a quand même un tiers de la population qui n'a pas de smartphone, donc ils ne pourront pas télécharger l'application. Et par ailleurs, quand on regarde les applications similaires qui ont été lancées à l'étranger, notamment à Singapour, le taux d'utilisation a aussi été assez faible, 7%, ce qui explique d'ailleurs que Singapour est fini par choisir, par reconfiner sa population. Donc l'application singapourienne que la France a copiée a été finalement un échec dans ce pays-là. Ils l'ont utilisé pendant quelques semaines et au bout de quelques semaines, ils se sont rendus compte que la contamination était non contenue et ils ont choisi finalement de confiner l'ensemble de la population. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle c'est inefficace. Ça serait probablement le taux d'utilisation. La deuxième raison, et on en parlera peut-être plus tard, c'est la question des iPhones. Il y a une sécurité spécifique sur les iPhones qui fait que...
Oui, alors on va en parler dans 5 minutes. Mais d'abord, sur la question de l'efficacité, le secrétaire d'État chargé du numérique, Cédric O, vous répond en quelque sorte dans le Figaro du 28 mai quand il dit qu'un peu, à partir d'un peu moins de 10% de personnes qui l'utilisent dans un bassin de vie, l'application a une efficacité systémique pour diminuer la diffusion de l'épidémie.
Alors, j'aimerais voir l'étude sur laquelle elle est fondée. Moi, ce que je crains quand même, c'est que c'est le côté un peu magique de cette application. C'est-à-dire qu'on dit à la population, utilisez cette application. Si vous l'avez sur vous, vous recevrez des notifications si vous avez croisé quelqu'un de malade. Sous-entendu, si vous n'en recevez pas, c'est que tout va bien. Moi, le risque que je vois quand même, c'est que si le taux d'utilisation est très faible, les personnes se sentent en sécurité et que donc on ait une baisse de la vigilance. Davantage de personnes qui sortent et qui respectent de moins en moins les gestes barrières. Donc moi, je ferai quand même très attention à ce genre d'assertion. À ce stade, encore une fois, aucun pays au monde n'a réussi à prouver l'efficacité d'une telle application. Je pense que pour Cédric O, probablement que son argument derrière, c'est que cette application est efficace parce qu'elle est complétée par un dispositif humain qui, lui, est massif, qui est le dispositif des brigades sanitaires. Et qui, lui, pour le coup, est efficace et a prouvé son efficacité dans d'autres pays, notamment en Corée.
Lucien Castex, sur l'efficacité d'abord.
Alors tout à fait, il y a le risque de faux négatif, c'est-à-dire d'un faux sentiment de sécurité, et tout dépendra du taux d'utilisation de l'application. Si, mettons, 10 ou 15% peuvent commencer à compter, il ne faut pas oublier que pour détecter quoi que ce soit, il faut que les deux personnes ou les trois personnes qui se croisent utilisent l'application, ce qui pose un certain nombre de problèmes de compatibilité et ce qui pose un certain nombre de problèmes plus largement d'interopérabilité entre la solution française et d'autres solutions développées à l'étranger, notamment sur l'interface de programmation qui est proposée par Apple et par Google, qui est utilisée par d'autres pays, notamment par l'Allemagne ou par l'Italie, par ailleurs. Ensuite, Sur l'efficacité, je dirais simplement qu'il y a un problème d'équilibre, c'est-à-dire l'équilibre entre la protection de la santé publique et les droits et libertés fondamentaux. Dans quelle mesure les risques potentiels d'une application peuvent faire peser cet équilibre justement vers un solutionnisme technologique qui aboutirait à une sorte de dystopie par accident dans l'utilisation d'une application qui aurait des conséquences à plus long terme. C'est-à-dire un effet cliquet légitimant, une acceptabilité sociale de ce type de technologie utilisée à d'autres fins. Et on a pu observer dans d'autres cas un sentiment d'être surveillé en permanence qui peut entraver l'exercice effectif des libertés individuelles.
Alors on va aborder la question plus en détail dans un moment, mais vous pensez l'un et l'autre que ça peut créer un précédent, en d'autres termes, que même si des garanties sont données, si cette application pour l'instant est relativement anodine, ça peut créer c'est susceptible de créer un précédent, une manière une forme d'acceptation générale de la surveillance par algorithme.
Alors tout à fait, ça peut créer un précédent et ça fait écho à d'autres débats effectivement sur l'algorithmie utilisée à d'autres fins, la décision algorithmique et l'anticipation par l'algorithme, l'inversion de la logique vers quelque part de l'induction et non plus de la déduction algorithmique.
Miguel Benassayac, dans votre livre La tyrannie des algorithmes, vous parlez à un moment donné du corps, de la manière dont, je vous cite, les concepteurs du monde digital essaient de gérer le corps de façon dématérialisée. Dans le monde de la gouvernance digitale, le corps est un obstacle récalcitrant, mais tout est fait pour le mesurer et pour l'incorporer au monde digital. Est-ce que, à votre avis, l'application Stop Covid est un premier pas dans cette direction?
Bon, pour aller un peu dans le sens des intervenants antérieurs, dans mon travail, ça augmente encore plus la tendance à algorithmiser la vie dans le sens d'une délégation des fonctions. Mmh. C'est-à-dire qu'on déresponsabilise les gens et on les met à fonctionner. Effectivement, comme madame a dit, ça crée une sensation de soulagement, c'est-à-dire, bon voilà, c'est-à-dire je n'ai plus à faire attention parce que de toute façon, papa algorithme fait attention pour moi. Et donc moi je pense que on a tort de croire que la seule façon de faire une prévention sanitaire est toujours dans plus de délégation des fonctions des citoyens vers la gouvernementalité algorithmique. Il y a d'autres façons, et les autres façons en plus sont des façons qui justement fortifient les sentiments de responsabilité, de solidarité. Solidarité dans le sens de dire je fais partie d'une société, quoi, je suis responsable. Et moi, personnellement, que j'ai continué ma consultation par téléconsultation, j'ai vu que presque tout le monde pensait en termes de « je ne vais pas contaminer ». J'ai entendu ça tout le temps. Mmh. Alors, vraiment, c'est les vieux débats, vous voyez, c'est-à-dire, parce que là, on va revenir certainement, mais les vieux débats entre liberté et sécurité, limiter sa liberté pour la sécurité, chose qui est toujours nommée en danger. Et juste... la phrase bête, vous savez, c'est-à-dire si je n'ai rien à cacher. Mais c'est pas ça la question, parce que l'homme, la femme qui se vit comme en n'ayant rien à cacher est quelqu'un qui est en train de devenir de plus en plus un profil. C'est-à-dire on devient un profil. Mmh. Et bon.
Oui, c'est ça. C'est ce que vous dites, c'est qu'on est en train de transformer les êtres en ensemble d'unités d'information, c'est-à-dire en profil. On fonctionnalise les êtres.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que cette délégation massive des fonctions, moi j'ai travaillé ça d'un point de vue en neurophysiologie par rapport au cerveau, pour ne pas rester au côté subjectif psychologique, n'est-ce pas? Mais effectivement, cet être humain qui de plus en plus fonctionne, non, assimilé au temps, au rythme de la machine, devient de plus en plus son propre profil, dans ce désir panoptique, ce désir de devenir transparent. Alors donc, moi je pense qu'il y a quelque chose à penser par rapport à cette stupidité de je n'ai rien à cacher, car d'abord, pas seulement on a des choses à cacher, mais les choses qu'on a à cacher sont cachées pour nous-mêmes, n'est-ce pas? Un être humain n'est pas transparent. Et en plus, je vous dis encore plus, j'ai voulu mettre l'application sur mon fixe et discrimination incroyable, ils ne sont pas voulus. Non, c'est une blague.
Alors, l'un des points paradoxaux de cette application, enfin de l'histoire de cette application Stop Covid, Adrienne Breton, vous en parlez dans une tribune du JDD, la grande surprise à laquelle on a assisté, c'est que pour la première fois, c'est le Guardian qui le titrait comme ça, mais c'est le premier pays à avoir publiquement demandé à ce que Apple affaiblisse les protections de la vie privée, c'est la France. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans une situation pour fabriquer cette application à front renversé, où c'est le gouvernement qui a demandé à Apple que les protections de la vie privée soient affaiblies, alors que jusqu'à présent c'était plutôt les géants du GAFA qu'on considérait comme étant intrusifs pour ce qui était de la vie privée.
Oui, c'était une situation paradoxale et c'était également une demande pouvait mettre quand même un peu en risque le gouvernement français, car il était pratiquement évident qu'Apple n'allait pas accepter une telle demande, notamment parce qu'Apple a eu des demandes similaires de la part du FBI dans des situations assez graves de terrorisme aux États-Unis et a refusé de faire les modifications de sécurité demandées par le FBI américain dans ce contexte-là. Donc il y avait effectivement assez peu de chances qu'Apple accepte une telle modification. Pour rentrer un peu dans le détail, pour expliquer, donc effectivement sur les iPhones, le Bluetooth ne fonctionne pas de façon continue. Donc quand on a une application comme Stop Covid qui fonctionne avec le Bluetooth, elle ne fonctionne que lorsqu'elle est ouverte et quand elle est fermée, le lien avec le Bluetooth est coupé.
Oui, on peut mettre on et off le Bluetooth comme on veut en fait.
Oui, mais c'est surtout que quand on a son téléphone dans sa poche qui ne fait rien, eh bien l'application Stop Covid n'utilisera plus le Bluetooth, il n'enverra pas de signal aux personnes que l'on va croiser.
Oui.
Pareil, si on utilise en premier plan une application de jeu, mm-hmm, sur son iPhone, mm-hmm, Stop Covid sera coupé. Si on téléphone, Stop Covid sera coupé. Mm-hmm. Et c'est une modification qui a été introduite par Apple il y a quelques années, parce qu'ils, mm-hmm, se sont rendus compte que certaines applications que l'on pouvait télécharger sur un peu tous les sujets, cachaient un système de Bluetooth qui permettait de localiser les personnes à proximité d'un commerce et de leur envoyer de la publicité ciblée. Mmh. Et donc Apple a décidé donc de modifier son Bluetooth pour empêcher le Bluetooth de fonctionner de façon continue, pour éviter ces publications ciblées, et a communiqué sur sa volonté de protéger les données personnelles de ses clients.
Voilà. Et le 21 avril dernier, dans une interview à Bloomberg, je crois, Cédric O a demandé à Apple de supprimer l'obstacle technologique, je le cite, pour nous permettre de créer une solution sanitaire propre qui réponde à notre système de soins. C'est-à-dire que l'État français demandait à Apple de supprimer le dispositif protégeant la vie privée. Et ça n'a pas été fait. Et c'est l'origine, en fait, du conflit entre Apple et le gouvernement français. C'est la raison pour laquelle le gouvernement ne s'est pas appuyé sur Apple pour développer sa propre application.
C'est pas exactement la raison. Je pense que le gouvernement français souhaitait avoir sa propre solution, mm-hmm, pour des raisons de souveraineté numérique mm-hmm, qui peuvent se comprendre. Mais de l'autre côté, on avait effectivement Apple qui a développé son propre système Covid. Et qui donc poussait son application. Et donc, mmh, c'est une autre raison, mmh, pour laquelle Apple n'avait aucune raison, mmh, de répondre positivement à la demande française.
Mmh.
Alors, et on se retrouve du coup aujourd'hui avec une application qui ne fonctionne qu'en France. C'est un peu aussi la difficulté, oui, de cette application Stop Covid. Ouais.
Alors Lucien Gastec, est-ce que c'est pas complètement paradoxal? On se retrouve confronté à une situation qui n'est pas celle qu'on aurait pu penser au départ.
Alors tout à fait, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a une difficulté pour Apple qui dans son modèle promeut la protection des utilisateurs, notamment de la vie privée, et à la demande du FBI, du gouvernement américain, avait déjà refusé l'accès au téléphone portable du tueur de Panascola, ou encore dans le cas de la tuerie de San Bernardino en mm-hmm, 2016. Mm-hmm. Et la volonté d'intégrer une porte dérobée, c'est-à-dire quelque part une faille de sécurité, était considérée comme affaiblissant globalement le système, l'iPhone et le réseau auquel il est connecté. Et ça aboutit effectivement à une situation paradoxale dans laquelle on demande à une plateforme, à un GAFA, de le faire. Et c'est la plateforme qui protège ses utilisateurs, mm-hmm, des intrusions de l'État, de la scrutation, quelque part, de la surveillance. Et j'ai mémoire de Tim Cook qui avait publié le courrier qu'il avait envoyé au FBI et qui avait considéré que c'était
Il faut expliquer qui est Tim Cook en deux mots.
Alors, qui est le patron d'Apple, mm-hmm, qui avait expliqué que c'était l'intérêt du plus grand nombre que de ne pas justement ajouter une porte dérobée, mm-hmm, à son modèle de téléphone portable ou à d'autres outils Apple.
Mais alors après une telle demande, quelle légitimité aura la France à protester contre la collecte de données par les géants du numérique à partir du moment où le gouvernement français demande l'affaiblissement des mesures de la protection?
Alors, comme vous le disiez, ça crée une situation tout à fait paradoxale. On peut espérer que c'est une demande exceptionnelle dans le cadre de la protection de la santé publique et que la volonté d'avoir une application souveraine, c'est-à-dire la volonté de ne pas dépendre de l'interface de programmation qui est proposée par Apple et par Google, soit une raison à cette demande suffisante pour ne pas la réitérer. Mmh. Et quelque part, cette volonté ce solutionnisme technologique, comme on pourrait l'appeler, pose par ailleurs difficulté, parce que le fait d'avoir une application propre, l'application française, mais aussi l'application britannique, pose des difficultés en termes d'interopérabilité, ce qui, si on réfléchit un peu prospectivement, interroge sur les déplacements de population à venir, par, oui, exemple pendant les vacances, comment, oui, est-ce, oui, qu'on va identifier des déplacements, des clusters, mm-hmm, de contamination, des chaînes de, mm-hmm, transmission, dès lors que les gens passent les frontières, et dès lors passent, mm-hmm, les frontières également, mm-hmm, des dites applications.
Mm-hmm. Alors, on va continuer cette discussion après une minute de musique.
drive you crazy just one little itch. Papa Jingle set the house on fire. Got so goddamn hot that he couldn't resist. Love is like a snake that likes to swallow its lover. It'll suck on your bones, it'll spit you away. Shoot you up with venom, give you nothing but trouble. Better trust the witch, now she's back on the game.
Alors, signe des temps, l'application Stop Covid et ses conséquences. Le 15 avril dernier, l'écrivain Margaret Atwood, la romancière auteure de La Servante écarlate, commentait dans une interview à la BBC, elle expliquait que pendant cette pandémie, les gens sont peut-être obligés à faire des choix qui ne sont pas très plaisants, je la traduis, mais les décisions qui sont prises ne relèvent pas d'un totalitarisme délibéré. Et une association, un site de défense des utilisateurs de nouvelles technologies lui avait répondu que si on n'était pas en train d'entrer dans un âge de totalitarisme délibéré, on était peut-être en train d'entrer dans une sorte de dystopie par accident, c'est-à-dire que les actes qu'on est en train de prendre en ce moment, les mesures qui sont prises en ce moment, auraient des conséquences qu'on est incapable de mesurer. Vous avez parlé de dystopie par accident tout à l'heure, Lucien Castex.
Oui, tout à fait. On a cet effet légitimement que je mentionnais tout à l'heure, cette transparence quelque part de l'algorithme qui inverse le rapport aux choses et qui aboutit en fait, qui condamne peut-être même à correspondre aux prévisions que l'on a sur nous. Et c'est l'idée que la machine est neutre. Une sorte de neutralité axiologique, je dirais même de réduction phénoménologique ou d'épopée husserlienne de la machine, et qui pose cette difficulté de la contestation. Comment est-ce que l'on peut contester ce que dit une machine si on ne le saisit pas, si on n'arrive pas à l'expliquer?
Oui.
Ça pose une question transverse de compréhension algorithmique, et dès lors, on aboutit par l'utilisation et par la légitimisation technique à une gouvernance algorithmique ou à une utilisation de ces outils à des fins, ici, de santé publique, potentiellement à des fins de surveillance ou à d'autres fins, qui aboutit quelque part, qui aboutit à une dystopie, effectivement, par accident ou une dystopie par ricochet, qui pose un problème de narratif et qui interroge quelque part sur la société que l'on souhaite et qui, à mon sens, a une nécessité d'être débattue.
Mais quand vous parlez d'atteinte transversale au droit, vous voulez dire quoi exactement? C'est quoi les atteintes transversales?
Alors, en ce qui concerne Stop Covid et plus largement en matière de systèmes d'information, il y a d'autres types de systèmes d'information qui peuvent être mobilisés, que ce soit pour Stop Covid ou dans d'autres cas. En fin de compte, Il y a la potentialité d'atteinte transversale aux libertés et droits fondamentaux qui ne se limite pas uniquement à la protection de la vie privée, même entendu largement en référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Quelque part, c'est vraiment, pour le résumer à grands traits, c'est ce sentiment d'être surveillé en permanence qui entrave l'exercice des libertés individuelles et collectives. Et le risque de discrimination et de stigmatisation de certaines populations qui utilisent, qui n'utilisent pas, qui peut-être contaminent dans le cas d'une pandémie comme nous vivons. Et c'est vraiment ce sentiment de surveillance plus l'acceptabilité sociale des outils qui peut nous amener par accident justement à cette dystopie.
Par les comportements qu'on ne maîtrise pas et par des phénomènes d'autocensure aussi et de choix qu'on fait sans s'en rendre compte.
Tout à fait, par des phénomènes d'autocensure qui sont accentués par le traitement algorithmique, par la masse des données et par cette collecte en continu qui s'opère par ailleurs.
Alors Miguel Benassayag, dans votre livre, vous citez Spinoza, Spinoza qui réfléchit sur le fait de sur le fait qu'une bonne action peut avoir des conséquences mauvaises. Je peux agir bien, mais agir bien peut provoquer un mal, et à l'inverse, je peux agir mal, mais mal agir peut provoquer un bien. Donc comment classifier les actes? C'est-à-dire Spinoza les classifie selon leur intentionnalité, et là il me semble qu'on est totalement dans ce cas de figure, puisque les intentions des nouvelles technologies ne sont pas nécessairement mauvaises, mais les conséquences sont absolument imprévisible. Vous dites aussi que la montée en puissance des GAFA n'élimine pas la politique classique, mais qu'elle la relativise.
Oui, c'est-à-dire là, pour continuer comme dans ce que monsieur vient de dire, il y a effectivement un caractère performatif, c'est-à-dire des formations de la matière, du cerveau, de la société, de nous-mêmes, de par cette idée d'être tout le temps surveiller. C'est ni plus ni moins qu'une sorte de mise en scène du panoptique de Bentham, c'est-à-dire que le prisonnier, en se sachant ou en se croyant surveillé, petit à petit incorpore dans sa tête les miradors et commence petit à petit à se comporter d'après les comportements normés et normatifs. Bien. Là, pour Bentham et l'Atoll, moi j'étais quand même plusieurs années, ça se passe pas tellement bien. Mais en revanche, la différence entre l'Atoll et les smartphones, c'est que moi je voulais pas être un toll et les prisonniers non plus. En revanche, les smartphones, on l'achète cher et il y a un désir. Il y a un désir, que c'est ce désir de sécurité, ce désir d'être infantilisé, c'est ce désir de déléguer.
En tout cas, oui, un désir de sécurité et un désir d'être en contact et de participer d'une cartographie de l'information, en fait. Si on ne fait pas partie de la nouvelle cartographie de la communication, on n'existe pas, tout simplement.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est quand même drôle parce qu'on a assimilé l'existence à un pur fonctionnement. Parce que l'existence, quand même, a des côtés, justement, contradictoires. C'est tout ce que l'algorithme ne peut pas modéliser à la fois, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le comportement des humains n'est pas utilitariste, linéaire, etc. Alors, par rapport aux intentions, vous parlez des intentions, effectivement, je pense qu'il n'y a pas lieu à faire du complotisme, de la paranoïa par rapport à qu'est-ce qui est nouvel. Moi, je pense qu'il y a des choses qui échappent des mains, bien entendu, qui échappent des mains, mais que dans un système très très complexe, hyper complexe, la résultante échappe des mains. Et la résultante est quand même cet affaiblissement des citoyens qui de plus en plus vont modeler leur fonctionnement parce qu'en se croyant ou en se sachant surveiller, en essayant de fonctionner comme la norme le veut. Alors fonctionner comme la norme le veut, c'est enlever toutes les dimensions les plus profondes des capacités d'une pensée complexe, contradictoire, responsable.
Alors, oui, alors c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'interdit ou l'autorisé, mais on est dans le normatif, c'est-à-dire ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas, et quand ça fonctionne pas, le système se met sur off, quoi, et on est exclu. Mais ça, c'est pas seulement les citoyens, il me semble, parce que les dirigeants ont pratiquement le même problème. Une des questions qui se pose, c'est qui régule, et on se rend compte que très peu de gens parviennent à prendre en compte le cadre et les conséquences des décisions qu'ils prennent. Lucien Castex et Adrienne Bretons, qui prend les décisions sur Internet? On a en ce moment un cas tout à fait étonnant aux États-Unis avec Donald Trump, qui a été dont l'élection a été aidée par les réseaux sociaux et qui est en train d'entrer en conflit ouvert avec Twitter. Est-ce que c'est pas totalement surprenant? Est-ce qu'on ne se rend pas compte à cette occasion que en fait les dirigeants ne dirigent pas non plus, en fait ils sont eux-mêmes dépassés par les technologies qui les a aidés?
Oui, et c'est effectivement l'exemple du conflit actuel entre Twitter et Trump est très éclairant et en même temps un peu inquiétant. En tout cas moi, il me met assez mal à l'aise de voir qu'une plateforme numérique peut s'ériger en juge des propos des uns et des autres, au-delà même de ce qui est normalement qualifié comme un propos appelant à la haine ou appelant à la violence. On a quand même des plateformes qui s'érigent en juge du débat politique, et ça, c'est probablement quand même un affaiblissement de notre démocratie. Mais on a le débat aussi.
Bah oui, mais alors on est dans un dilemme compliqué parce que pour raconter l'histoire, le 28 mai dernier, donc Trump a tweeté à propos des émeutes qui ont lieu en ce moment et qui commençaient "When the looting starts, the shooting starts". Quand les pillages commencent, les coups de feu suivent. En quelque sorte, c'est une référence consciente ou pas à ce qu'avait déclaré le chef de la police de Miami en 67 pour justifier les brutalités policières contre les militants des droits civiques. Et Twitter a laissé passer le tweet, mais avec une note avertissant que le tweet enfreignait le code relatif à la glorification de la violence. Et Trump a donc réagi très violemment en annonçant qu'il préparait un décret sur la prévention de la censure en ligne. Et donc on risque d'avoir, personnellement, j'arrive même pas à savoir dans quelle mesure c'est une bonne chose et dans quelle mesure c'est une mauvaise chose. Adrienne Bretons, vous soulignez la crainte qu'il y a à voir les plateformes contrôlant le contenu éditorial des réseaux sociaux, mais en même temps, c'est peut-être en même temps une manière de les réguler. Donc est-ce qu'on n'a pas là aussi un truc complètement à front renversé, ou c'est par l'intermédiaire des excès de Trump qu'on arriverait à une régulation des réseaux sociaux, Lucien Castex?
Alors ce qui est intéressant, c'est que certes Twitter donc a réagi, oui, mais qu'à côté de ça, une autre plateforme comme Facebook a considéré, oui, que le contenu pouvait passer en vertu de règles différentes de la dite.
Tout à fait. Mark Zuckerberg a dit que les réseaux sociaux ne devraient pas se conduire comme des fact-checkers et des arbitres de la vérité.
Voilà, tout à fait. Donc, et dans la...
Allez, mais alors, dans, c'est très le, compliqué. Dans le cas de... C'est très compliqué parce que cette phrase de Mark Zuckerberg renvoie à la validation par les réseaux sociaux des fake news.
Donc, alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que lorsque Donald Trump propose d'annuler la section 230, c'est-à-dire grosso modo la responsabilité limitée des hébergeurs des grandes plateformes relativement au contenu qu'elles hébergent ou qu'elles diffusent, eh bien, ça fait écho à des débats qu'il y a également chez nous, des débats qui ont été assez vifs, hein, comme ça a été mentionné, notamment à l'occasion de la loi Avia, mais aussi à l'occasion de la loi de 2018 sur la lutte contre la désinformation en ligne, mm-hmm, qui sont des textes effectivement qui posent cette même question du rôle des plateformes et qui interrogent plus largement la notion même de plateforme. Il y a un certain nombre de débats tout à fait intéressants sur ce qu'on appelle les plateformes numériques structurantes. L'autorité de la concurrence a publié récemment un texte tout à fait intéressant sur la question, et il y a surtout la définition du code de la consommation de la plateforme et qui vise notamment les plateformes qui classent, qui référencent au moyen d'algorithmes ou qui mettent en relation des parties. Ça correspond tout à fait au cas de Facebook, au cas de Twitter ou au cas de YouTube, d'Amazon, etc. dans d'autres cas. En France, on a accès à l'approche sur la transparence. Et la difficulté qui se pose, c'est l'évaluation des contenus. Et en fin de compte, ça repose la question de la souveraineté numérique. Mmh. Qui peut décider qu'un contenu est problématique et en vertu, oui, de quelle réglementation?
Oui, oui. Oui, et si on ne décide pas, et si on ne décide de rien, on laisse passer absolument tout et n'importe quoi.
Alors, tout à fait. On ne peut pas non plus ne pas décider. Les débats assez houleux qu'il y a eu autour de la loi Avia, qui a été adoptée de mémoire le 13 mai dernier, qui a fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel, c'est quelque part cette idée de dire que l'approche que la loi pour la confiance dans l'économie numérique de 2004 avait proposée, c'est-à-dire la suppression de contenus manifestement illicites dans un prompt délai, n'était pas suffisante parce que la définition même de la promptitude était difficile à établir. Et dès lors, on demande aux plateformes, dans le cas de la haine en ligne, mais la définition est extrêmement large, de supprimer, je devrais dire de masquer, les contenus manifestement illicites. Mm-hmm. Donc pareil, qu'est-ce qui est un contenu manifestement illicite? Mm-hmm. Définition extrêmement compliquée et difficile à identifier dans un délai extrêmement court de 24 heures ou de 1 heure dans le cas de contenu terroriste, mmh, ou pédopornographique, quand notifié donc par une autorité publique. Le problème vient vient également de la sanction qui est importante, sanction amende pénale, mais également sanction administrative, ce qui pousse quelque part, par un effet de gestion du risque, une plateforme a préféré masquer un contenu que de risquer l'amende. Donc on risque quelque part un effet de censure, de suspension de contenu qui est inopportun et qui est sans juge dans la mesure où c'est la plateforme qui modère.
Ce qui est fascinant, et ça je vous pose la question à tous les trois, ce qui est fascinant c'est de voir à quel point en fait personne n'arrive vraiment, ni les gouvernants, ni les... On avance en quelque sorte les yeux bandés dans cette histoire de... On en revient à la dystopie par accident, c'est-à-dire que dirigeants d'État comme dirigeants des GAFA n'arrivent pas vraiment à savoir quoi faire ni comment le faire. On réagit tous, tout le monde semble réagir à court terme en fait dans le contexte de la pandémie qui plus est.
Oui, si vous permettez.
Oui, Miguel Benassaya.
Effectivement, il y a quelque chose quand même comme le roi est nu, c'est-à-dire parce que si gouverner et prévoir, alors là, on n'est pas gouverné. Hein. Mais à vrai dire, moi, je ne poserai pas tellement la question de quel algorithme ou quel est la GAFA ou qui devrait censurer les contenus sur Internet. Moi, je pense que le problème, c'est le rapport des humains à la machine. Mmh. Moi, je crois que c'est la place qui prend l'algorithme, la fascination pour le monde algorithmique, cette difficulté qu'on a à distribuer les places. Vous voyez, la place de l'humain dans la décision par rapport à la place des aides, des calculs, des recherches qu'il y a la machine. Vous voyez, par exemple, en médecine, quand vous êtes connecté avec une big data, avec une banque de données, non, il est très difficile quand arrivent les diagnostics et les traitements après des milliards de consultations en quelques secondes, il est très difficile de dire « mais je ne crois pas ». Vous voyez ici en France, encore on peut le dire. Aux États-Unis, si vous dites « je ne crois pas » et le patient va mal, vous avez un procès. Vous voyez si vous suivez la big data et le patient meurt, c'est la faute à personne. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce qu'on a du mal à voir, c'est quelle est la place, la singularité du vivant et de l'humain dans son rapport au monde algorithmique.
Oui, alors dans votre livre, vous faites remonter le problème à la théorie de la formation, c'est-à-dire la réduction de l'humain à un élément, à un ensemble d'unités d'information, et plus généralement, vous faites remonter ça à la crise de la rationalité et de la raison, en particulier depuis la deuxième moitié du XXe siècle. En clair, vous parlez d'un scientisme généralisé qui se serait mis en place quelque part après la Seconde Guerre mondiale et qui bizarrement transcende les clivages politiques. Dans les pages historiques de votre livre, vous faites remarquer que c'est d'abord dans les milieux hippies, alternatifs, anarchistes que les raisonnements qui allaient aboutir à la révolution cybernétique ont vu le jour, en particulier dans le désir de dépassement du moi, dépassement de l'individu, et que ça s'est retourné ensuite à partir des années 80.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, au fait, avec Giuseppe Longo et Jean-Michel Besnier, nous avons essayé de comprendre, on a beaucoup travaillé pour essayer de comprendre cette fascination après la première période, cette période dans laquelle il y avait une période d'investigation, de recherche, où d'ailleurs l'entreprise ne voyait pas tellement l'intérêt des algorithmiser. À un moment donné, effectivement, le monde, tout à coup, tombe dans cette fascination. Nous avons voulu comprendre cette fascination. Un élément pour comprendre ça, c'est une hypothèse, c'est qu'effectivement, nous sommes dans cet après-deuil de la rationalité, après-deuil de cette rêve kantien ou cartésien de que l'humain pouvait être guidé par sa seule raison, n'est-ce pas? Ces rêves-là se cassent, effectivement, tout le monde sait qu'ils se cassent à Auschwitz, se cassent à Hiroshima. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'il faut bien savoir que jusqu'à un certain moment de l'histoire, on croyait, en Occident, en tous les cas, on croyait que qui pense bien, pense le bien. Vous comprenez ce que on ne pouvait pas penser bien le mal. Heidegger, là-dessus, nous fait un peu froid dans les dos, n'est-ce pas? Parce qu'on pouvait penser très bien le mal. Or, tout à coup, dans ce monde un peu déboussolé qui perd cet idéal d'une rationalité kantienne, d'arriver à la majorité, comme disait Kant, etc., eh bien, ce monde qui perd cette foi dans la rationalité trouve la soi-disant machine à raisonner, qui elle, parce que sans corps, justement donc sans pulsion, sans désir, sans contradiction, sans angle mort, la machine à raisonner, tout à coup, va prendre la place et elle pourra, oui, raisonner. C'est une hypothèse historique pour essayer de comprendre cet engouement.
C'est une des parties les plus intéressantes du livre. Alors, je voudrais qu'on finisse l'émission sur quelque chose comme les prospectives ou au moins un minimum de diagnostic. Ce qu'on voit, c'est que c'est pas seulement l'Occident, c'est-à-dire en Occident, les nouvelles technologies se sont développées sur une base qui était la base du commerce et de la publicité, puis finalement de la politique. C'est pour développer la publicité essentiellement qu'on a commencé à collecter les informations sur les utilisateurs. En Chine, les choses sont différentes. Dès 90, l'essor économique et le capitalisme chinois mal régulé ont provoqué une explosion de la corruption, et c'est en réaction à ce néolibéralisme que le Parti communiste a commencé à vouloir revenir à un contrôle des populations pour combiner le droit et la morale, comme disait le Parti communiste dès le milieu des années 90, en expliquant que certains s'écartent des valeurs de la foi, de l'idéal socialiste, et c'est pour les faire revenir à l'idéal socialiste qu'on a commencé à mettre en place le fameux mécanisme de sanctions pour les personnes indignes de confiance et le crédit social. C'est-à-dire qu'on a deux systèmes complètement différents, en tout cas le fond est différent. Et on aboutit à quelque chose de un double système qui se retrouve quand même à se regarder comme des deux frères jumeaux en quelque sorte. Je voudrais finir. Hélène Bonner, la veuve d'Andrei de Sakharov, avait dans une interview à Galia Ackerman en 2007 avait dit que le 21e siècle serait la synthèse du pire du socialisme et du pire du capitalisme. Et Adrienne Breton, c'est Lucien Castex. Est-ce que c'est pas ça qui est en train de s'esquisser avec les nouvelles technologies, si on ne trouve pas le moyen de les contrôler?
Je n'espère pas, en tout cas. Je pense qu'on est encore en train de chercher notre place par rapport à la machine. Ouais. Aujourd'hui, on a vraiment une vision des algorithmes comme quelque chose un peu de mystique, comme effectivement une sorte de dieu qui ne pourrait pas se tromper et qui donnerait forcément la bonne réponse. Je pense qu'il va être important dans les prochaines années de comprendre comment les algorithmes fonctionnent pour pouvoir mieux les contrôler, savoir que les algorithmes sont biaisés et peuvent donc donner des mauvaises réponses. Donc je pense que c'est aussi une question d'éducation de notre esprit critique. Et pour faire un parallèle, on a déjà eu ces débats, en fait, et on les a encore, avec la science économique. Avec la science économique, on a aussi cette idée que si un économiste a dit qu'il fallait faire telle chose, c'est forcément juste. Et on a découvert au fur et à mesure que un modèle économique donne telle réponse parce qu'il est fondé sur telle hypothèse, mais que l'hypothèse de départ peut être remise en cause. Je pense que c'est un peu la même démarche qu'on va devoir avoir avec les algorithmes d'appropriation de leur fonctionnement et de contestation, en fait, de leur mode de fonctionnement pour pouvoir comprendre que l'algorithme peut se tromper et peut donner de mauvaises réponses, tout simplement.
Lucien Castex, très rapidement.
Alors je suis assez d'accord avec cette nécessité d'éducation pour comprendre réellement comment l'algorithme fonctionne et redévelopper quelque part un esprit critique de chacun sur cet algorithme, sur ces outils qui sont utilisés pour pouvoir quelque part faire un choix informé, faire un choix éclairé et sortir d'une sorte de modélisation spéculative qui donne peut-être trop de place au calcul. Et c'est vraiment l'éducation et la compréhension, l'explicabilité, peut-être, diront certains, qui est au centre du débat.
C'était Signe des Temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Sandrine Chaperon, avec à la technique Pierre Faucillon et à la réalisation Luc-Jean Reynaud. Must have had a dream.